France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir d'un empêcheur de dépenser en rond. L'ex-député René Dosière est celui qui s'est battu pendant 30 ans pour faire la lumière sur les dépenses de l'Élysée, pour imposer la transparence financière à la présidence de la République. Il l'a fait tout seul ou presque en posant des centaines de questions et il y est parvenu. Il vient d'ailleurs d'y consacrer un nouveau livre intitulé « Frais de palais » publié aux éditions de l'Observatoire. René Dosière nous dira d'où lui vient cette passion des colonnes de chiffres, cette obsession des budgets qui ne le quitte pas, y compris depuis qu'il a quitté l'Assemblée et qu'il a créé l'Observatoire de l'éthique publique. On parlera aussi avec lui de son parcours d'élu local et national, puisque René Dosière a été maire de Laon, conseiller général de l'Aisne, président de la région Picardie, avant d'aller découvrir le Palais Bourbon presque sur le tard et d'y passer un quart de siècle, pas toujours soutenu par son propre parti, le PS, c'est le moins que l'on puisse dire. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, dominée une fois encore par la réforme des retraites et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, on verra comment on peut soigner les victimes de violences sexuelles par le sport, en l'occurrence grâce à l'escrime. À 19h20, au téléphone sonne le baccalauréat en hiver. Et oui, nous ne sommes qu'en janvier, mais pour les élèves de première qui inaugurent la nouvelle formule du bac, les épreuves communes du contrôle continu débuteront dans quelques jours dans certains établissements. Or, il y a encore bien des questions à ce sujet. C'est le moment ou jamais de les poser en nous appelant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Ah, les embarras de Paris, ce n'est déjà pas simple en temps normal. Alors, en temps de grève des transports, c'est encore plus compliqué. Notre invité René Dosière est bloqué dans les bouchons, mais il s'est garé avec sa voiture. Bonsoir René Dosière.
Oui, bonsoir.
C'est compliqué hein, de circuler à Paris, dites-moi, quand on vient de l'Aisne. Hein, on ne se rend pas compte de la situation. Hein, on s'imagine qu'on n'a plus que quelques kilomètres à faire et que ça va le faire. Bah, du tout.
Ah, les embarras de Paris, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ouais, mais enfin, en ce moment, c'est compliqué. Écoutez, on va faire ça au téléphone, heureusement, grâce au portable. Vous venez de publier, René Dosière, aux éditions de l'Observatoire Frais de Palais, la vérité sur les dépenses de l'Élysée. On vous connaît pour votre travail, parce que pendant 30 ans, je le disais, vous avez forcé en quelque sorte les portes de l'Élysée pour faire la transparence sur les dépenses de la présidence. C'est ce qui vous a fait connaître. Est-ce que vous diriez que vous y êtes parvenu?
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que on sait maintenant quel est le montant exact du budget de l'Élysée, 110 millions d'euros, hein, c'est-à-dire à peu près 2 euros par habitant. Bon. Et ce budget, il est contrôlé tous les ans par la Cour des comptes. Donc nous sommes sans doute aujourd'hui le pays démocratique où les comptes du chef de l'exécutif sont les mieux connus et les mieux contrôlés.
Sachant qu'on partait de loin dans notre pays, hein, à une époque, on ne savait pas ce qui était dépensé. Ça se passait, vous l'avez écrit, à la bonne franquette, dans l'ignorance absolue. Par exemple, des marchés publics, on ne savait même pas combien de personnes travaillaient à l'Élysée.
Oui, c'était stupéfiant la situation antérieure. On ne connaissait pas le budget de l'Élysée, le président n'avait pas de rémunération, on ne savait pas combien il y avait de personnes à l'Élysée, il y avait des emplois fictifs, on utilisait les fonds secrets, bref, on dépensait sans compter.
Ça veut dire quoi? Que chaque année, le Parlement votait en fait une dotation annuelle, sans débat, sans question, c'est comme ça que ça se passait?
Tout à fait, et c'était la suite de ce qui s'était passé sous la 4e République, et donc on ne débattait pas, simplement cette dotation, elle ne représentait qu'un tiers des dépenses de l'Élysée, parce que depuis 1958, naturellement, l'Élysée était devenu le centre du pouvoir, et le nombre de collaborateurs de la présidence de la République avait augmenté. Par contre, les recettes, elles, n'augmentaient pas. Alors, on s'était débrouillé avec les fonds secrets, avec les aides des ministères. Bref, c'était du grand n'importe quoi.
Alors vous, c'est quoi? C'est sous Jacques Chirac que ça a commencé à vous titiller, que vous avez commencé à vous intéresser au sujet, à poser les questions?
Oui, j'ai découvert en 2001, d'ailleurs, que justement le budget de l'Élysée était revalorisé en cours d'année, un peu en catimini en quelque sorte, enfin sans que les parlementaires ne puissent en avoir une claire conscience. Ça m'a surpris comme procédé, et donc à partir de là, j'ai posé des questions pour savoir pourquoi. Et puis je me suis intéressé au budget de l'Élysée. J'ai découvert que effectivement, ce budget était complété par des aides des ministères, et que ces aides des ministères, ça représentait 2/3 des dépenses de l'Élysée. Alors, c'est à partir de ce moment-là que Nicolas Sarkozy a décidé, alors un peu plus tard, en 2007, fin 2007, de dire on va faire un vrai budget de l'Élysée.
Alors, on va y revenir à ce qui s'est passé ensuite, mais puisque vous parliez de 2001, René Dosière, on va se remettre en mémoire un petit peu comment ça se passait à l'époque. Retour le 14 juillet 2001, le président Chirac répondait aux questions des journalistes à propos de ses voyages payés en liquide, hein, c'était une des questions à l'époque. On écoute un très court extrait de cette intervention.
Il s'agit de quoi? De mes voyages. Il y a des voyages professionnels, il y a des voyages privés. Quand je me suis aperçu que il y avait dans ces voyages des voyages que ni moi, ni ma famille, ni aucun de mes amis n'avait jamais fait, et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler.
Donc
jamais.
Pour vous, les sommes se dégonflent.
C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit.
Voilà. Il faisait pas bon poser les questions à l'époque, hein, René Dosière.
Ah non. Alors, cette intervention a quand même suscité, si vous voulez, la réaction de Lionel Jospin, qui était à l'époque Premier ministre, et il a décidé, à la suite d'une petite enquête de la Cour des comptes, de supprimer les fonds secrets, c'est-à-dire ces fonds qui provenaient de Matignon et qui n'avaient pas d'existence officielle. Et à partir de 2002, il n'y a plus eu de fonds secrets.
Alors, les choses se sont faites par étapes, petit à petit. Comment vous avez procédé, vous, René Dosière? Vous avez posé des questions encore et encore à force d'obstination? Vous avez obtenu des réponses? C'est comme ça que ça s'est passé?
Oui, chaque parlementaire a la possibilité de poser des questions écrites. Et l'intérêt de ces questions écrites, c'est que le gouvernement est obligé d'y répondre. Car Philippe Séguin, quand il était président de l'Assemblée, avait mis en place une procédure qui obligeait le gouvernement à répondre dans les 10 jours si les délais normaux étaient expirés. Alors, j'ai utilisé cette procédure qui n'était pas très très connue, et donc j'obtenais des réponses. Et si on me répondait à côté, aussitôt, je reposais une question en disant « Attendez, je vous ai demandé tel combien il y avait, par exemple, de chauffeurs à Madame Chirac. Vous ne me répondez pas. Eh bien, je vous repose la question. Puis en même temps, vous voudrez bien me dire combien il y a de voitures, enfin, etc. » Et donc, pendant des années, si vous voulez, j'ai utilisé cette procédure des questions. J'ai accumulé, au fond, au fil des mois, si vous voulez, des indices, des pièces du puzzle, si vous voulez, ou bien des indices de cette enquête policière, pour arriver finalement, 4 à 5 ans plus tard, à avoir une esquisse du tableau réel que représentait le budget de l'Élysée.
Voilà, et puis en 2008, donc, il y a eu une réforme, en quelque sorte, hein, qui fait que depuis, il y a quand même une vraie transparence.
Oui, alors, il y a, pour le budget de l'Élysée, si vous voulez, il y a 2008 est important, c'est-à-dire il y a avant Sarkozy et après. Avant Sarkozy, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans le budget. Après Sarkozy, on a maintenant un budget qui est connu et qui est analysé et qui est également suivi par la commission de finances de l'Assemblée.
Alors un mot quand même de ce budget, vous disiez tout à l'heure un petit peu plus de 100 millions d'euros. Là, il avait baissé ce budget sous François Hollande, il est reparti à la hausse sous Emmanuel Macron. L'Assemblée a été votée, l'Assemblée a voté récemment une nouvelle augmentation. Pour 2020, c'est quoi? Plus 2,2%, 105 millions d'euros, c'est ça? De prévu.
Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le fait que le président demande quelques sommes, quelques milliers de francs ou 1 ou 2 millions supplémentaires, ceci dit, ça n'est plus inquiétant parce que cet argent, on sait comment il va être utilisé, d'une part, parce que la Cour des comptes va le contrôler, et puis par ailleurs, à l'Élysée, on a mis en place, au fil du temps, Sarkozy, puis Hollande, ont mis en place, et maintenant Macron, ont mis en place, si vous voulez, des procédures qui font qu'à l'Élysée, maintenant, quand on dépense, on compte, et puis on analyse, et on essaie de faire des économies.
Alors, vous le disiez, René Deuzière, ça fait 2 euros par habitant par an, le budget de l'Élysée. Pourtant, ça cristallise la colère. Vous le racontez dans votre livre, hein, lors d'un débat post-gilet jaune. Quelqu'un a posé la question, la rénovation de la salle des fêtes, la vaisselle de Sèvres. C'est quelque chose qui provoque toujours la colère d'une partie de la population, ce budget.
Oui, parce que d'abord la population ne sait pas toujours, si vous voulez, exactement quel est le montant du budget de l'Élysée. On pense toujours que ce budget est très supérieur à ce qu'il est. Et puis ensuite, si vous voulez, malgré tout, les gens sont très sensibles à ce qui se passe à l'Élysée. Et il y a un devoir d'exemplarité de la part du président de la République qui est évident, comme d'ailleurs de tous les responsables publics. Mais a fortiori du premier des Français qu'est le président de la République.
Voilà, et si on veut tout savoir, on se réfère à votre livre « Frais de palais » aux éditions de l'Observatoire. On va évidemment y revenir jusqu'à 19h, René Deuzière, mais d'abord, on passe comme tous les vendredis à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hilla, avec bien sûr toujours à la une la réforme des retraites.
Macron n'ont pas du tout apaisé les choses. Il est complètement dans le déni, il veut mener la réforme jusqu'à son terme. Les gens sont de plus en plus en colère.
Encore et toujours des manifestations contre la réforme des retraites, week-end compris, et des records battus en matière de longueur de grève des transports.
31 jours de grève, on lâche rien.
Depuis le 5 décembre, je me lève à 6h du matin et c'est galère.
J'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi. Il va être presque 19h et j'ai un bébé à récupérer. Comment je fais ?
Situation bloquée de chez bloquée. Alors dimanche soir, à la télé, Laurent Berger émet une idée.
Tous discutent, mais pas dans ce projet de loi.
Le secrétaire général de la CFDT propose de retirer l'âge pivot du projet de loi et de discuter, dans un autre cadre, de l'équilibre financier du système.
On convoque une conférence de financement des retraites.
Et là, le gouvernement se jette sur cette proposition.
C'est une très bonne proposition.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Je pense qu'il faut saisir la main qui a été tendue par le dirigeant de la CFDT.
Et tout le gouvernement semble s'être donné le mot.
Reprenant l'idée qui avait été formulée par Laurent Berger, j'ai proposé à l'ensemble des organisations syndicales et patronales de nous retrouver vendredi matin à Matignon.
Édouard Philippe donne rendez-vous vendredi alors que dans les rangs de la majorité, certains députés commencent à douter, à l'image de Guillaume Chiche qui porte décidément bien son nom.
S'il faut retirer l'âge pivot de la réforme des retraites, faisons-le. L'essentiel est la réforme de fond.
Mais le Premier ministre persiste et signe.
Cette mesure d'âge pivot constitue un vrai progrès et une vraie mesure de justice sociale.
Alors Laurent Berger répète pour la énième fois ce qu'il dit depuis le début.
Tout le monde a compris que la CFDT avait une ligne rouge. C'est cet âge pivot.
Autant dire que la situation reste bloquée alors qu'une quatrième journée d'action a eu lieu ce jeudi.
On peut jouer la montre, jouer le pourrissement et attendre que les gens s'essoufflent, mais un tel mouvement ne peut pas ne pas avoir de réponse. Parce que si on humilie un tel mouvement social, les répercussions politiques vont être catastrophiques pour le pays entier.
À Paris, un chauffeur livreur à scooter meurt après un contrôle de police, plaqué au sol dans des conditions qui posent question, y compris pour le ministre de l'Intérieur. Le père de la victime demande justice.
On a assassiné mon fils. Il y a 5 enfants et une veuve. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Tant que mon cœur battra, j'irai au combat.
À propos de combat, Carlos Ghosn a livré le sien mercredi à Beyrouth. Première prise de parole publique de l'ancien PDG de Renault-Nissan depuis sa fuite du Japon. Il est apparu plus sûr de lui que jamais.
Vous savez, je ne suis pas un homme lent. En général, quand j'agis vite.
Vous savez vraiment voyager dans la malle ?
Ah ça, vous m'en demandez trop. Je vous dis, je n'en parlerai pas.
On ne saura pas comment il s'est fait la malle. Pour ce qui est du Japon, en revanche, les mots claquent.
Moi, j'ai été traité, mais comme un animal, pas comme un être humain.
Je suis un homme libre !
Je revis.
Carlos Ghosn, vous n'avez pas de regrets ?
Peut-être je me suis trop sacrifié.
Ha 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 Le début des soldes cette semaine, les commerçants espèrent se refaire une santé, les consommateurs une garde-robe.
Oui, je l'ai fait. Je suis venu exprès pour ça, parce que ça va faire 2 mois que j'attends cette salopette et là, elle était à moins 50%. Moi, j'ai ma femme qui est très stricte là-dessus. Pas de dépenses inutiles.
Pas de dépenses inutiles, ça c'est pour vous, René Dosière.
Oui.
Hein,
oui.
C'est un petit peu votre message habituel. René Dosière, donc, qui est toujours en compagnie avec nous ce soir pour une semaine en France, à distance, je précise quand même, puisqu'il est bloqué dans sa voiture, dans les bouchons, à Paris, et que nous sommes au téléphone. Ce qu'on vient d'entendre, là, ce petit résumé de la semaine, René Dosière, est-ce que vous avez un commentaire, je ne sais pas, sur la réforme des retraites, peut-être ?
Alors, écoutez, s'agissant de ce projet qui était vraiment un projet extraordinairement important, je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement, qui disposait de 3 centrales syndicales qui étaient favorables à ce projet, n'a pas été capable de se mettre d'accord avec elles et au contraire les a rejetées avec les centrales syndicales qui sont opposées à ce projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une des grèves les plus longues de notre histoire, on a une population qui est exaspéré, des citoyens qui ne savent plus finalement où on en est dans ce projet, et donc je ne vois pas d'ailleurs comment le gouvernement va être capable de mettre en place un nouveau système de retraite aussi important sans avoir l'accord de la population et des organisations syndicales. Il y a là un manque de pédagogie et un manque de sens politique, j'avoue, qui stupéfie, si vous voulez, le responsable politique que j'ai été.
Surtout après une aussi longue concertation. À ce propos, Jean-Paul Delevoye, qui avait mené cette concertation pendant des mois et des mois sur les retraites, on sait qu'il a fini par quitter le gouvernement suite à des révélations sur des fonctions, sur des mandats qu'il occupait. Ça vous a surpris, toutes ces révélations ? Il a fait preuve de légèreté ?
Oui, oui, tout à fait. Mais là, puisque vous parlez, si vous voulez, du travail pendant 2 ans de Jean-Paul Delevoye, quand on voit à quel point le dossier semble improvisé pour le gouvernement, puisque quelquefois les ministres se contredisent, on se demande ce qu'il a pu faire pendant 2 ans. Enfin, normalement, le projet aurait dû être beaucoup mieux connu. On découvre brusquement que, par exemple, pour les enseignants, leur retraite va diminuer, puisque aujourd'hui, elle était calculée sur les 6 derniers mois. Depuis le début, c'était un point qu'on devait savoir et on devait dire aux enseignants, naturellement, votre retraite sera calculée différemment, mais vous ne perdrez rien. Enfin, c'est tout à fait étonnant, cette improvisation et cette volonté, je dirais, d'agir ensuite de manière autoritaire, sans concertation, pour un dossier qui est un dossier de société considérable.
Pardonnez-moi de vous reposer la question à propos de Jean-Paul Delevoye, puisque vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui concerne la transparence, René Dosière, compte tenu de son expérience dans tous les domaines, est-ce que vous avez été surpris de ce qu'il puisse oublier comme ça, de déclarer des mandats, et puis surtout qu'il continue à percevoir une rémunération qui, a priori, était incompatible avec ses fonctions ?
Tout à fait, tout à fait. Alors là, c'est aussi étonnant. Alors, c'est étonnant de la part de l'intéressé que, d'une part, il ignore que lorsqu'on est haut fonctionnaire, on ne peut pas avoir en même temps une activité rémunérée. Et ensuite, il ignore que quand on est ministre, on n'a pas le droit, constitutionnellement, d'avoir une rémunération accessoire. Donc, c'est étonnant de sa part, mais je dirais c'est aussi étonnant que le secrétariat général du gouvernement, qui est justement chargé de sécuriser ce type de disposition et de sécuriser les ministres, n'ait pas été en mesure de lui faire remarquer ou de lui interdire ce cumul de rémunération.
À propos des retraites, René Dosière, Emmanuel Macron a annoncé qu'il renonçait à sa retraite de président. C'est quoi ? C'est un geste fort ou c'est démagogique ?
Écoutez, c'est dans l'annonce qui a été faite, dans le moment où elle est faite, en dehors de son contexte, c'est naturellement un geste, je dirais, démagogique et de communication. Il y a un vrai problème du statut des anciens présidents de la République. Il n'a pas été réglé. On a réglé le problème du budget de la présidence et de la rémunération du président en activité. On n'a pas touché, je dirais, au statut des anciens présidents. Alors, sa retraite qui est fixée depuis 1955, alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas de budget à l'Élysée, ni même pas de rémunération du président. Eh bien, cette dotation, si vous voulez, elle doit naturellement disparaître, mais il s'agit non pas de dire qu'un ancien président de la République n'a pas le droit d'avoir une pension de retraite, mais simplement de réformer le système plus globalement. Mais l'annoncer comme ça, dire « je renonce à ma retraite » sans dire d'ailleurs ce qu'il en est pour les autres anciens présidents de la République, je trouve que là, effectivement, le moment était très mal choisi.
Alors, la question du statut des anciens présidents est abordée dans votre livre, Fred Pallet, René Dosière. Il y a une autre question que vous abordez, c'est le statut des épouses ou des compagnes des présidents, à leur absence de statut peut-être plutôt. On va en dire un mot, mais je voudrais d'abord qu'on écoute ce reportage de Benjamin Hilly. Il a assisté cette semaine au coup d'envoi de l'opération Pièce Jaune, la fameuse opération. Auparavant, c'est Bernadette Chirac qui s'en occupait. Dorénavant, c'est Brigitte Macron à qui elle a passé le relais. Et ça s'est passé, elle a débuté cette opération au centre hospitalier d'Orléans où elle était attendue de pied ferme par des gilets jaunes et des syndicalistes. On écoute.
Et là, les pièces jaunes, ça suffira plus !
Une poignée de gilets jaunes pour accueillir Brigitte Macron devant l'hôpital.
Entre parenthèses, les pièces jaunes, ça se rend
là. C'est pas assez, ça sera plus assez.
Et des membres du personnel, des représentants du syndicat Sud Santé.
En tant que première dame de France, elle est censée quand même venir vers nous pour discuter, pour lui expliquer nos difficultés.
Un grand merci aux cheerleaders.
À l'intérieur, autre ambiance.
Alors, est-ce que tu peux me donner ton doigt ?
Un magicien, une immense galette des rois, des enfants partout. Madame Macron, une question. Vous prenez la suite de Bernadette Chirac.
Moi, c'est énorme ce qu'elle a fait. Elle donne une visibilité à l'hôpital et elle aide concrètement l'hôpital. Et donc, ça va être un combat que je reprends avec énormément de plaisir et beaucoup d'énergie.
L'hôpital est en crise. Il y avait des manifestants devant l'hôpital cet après-midi. Vous leur dites quoi ?
Mais on comprend très bien. Je comprends leurs revendications. Parce que s'ils se battent, ils se battent pour l'hôpital. Donc, ce que je veux leur dire, c'est que la Fondation, on va se battre avec eux. On est avec eux.
Un petit écart à sa ligne de conduite. Brigitte Macron assure ne pas faire de politique et revient vite aux fondamentaux.
Vous avez des tirelires. Vous les remplissez à ras-bord et vous les rapportez avant le 14 février.
Ah voilà, Brigitte Macron, nouvelle ambassadrice des pièces jaunes. René Dosière, dans votre livre, vous abordez cette question donc du statut des compagnes ou des épouses du chef de l'État. À propos de Bernadette Chirac, vous dites que c'est elle qui s'est le plus investie. Elle s'est comportée en reine de la République, c'est ce que vous écrivez.
Oui, c'est d'ailleurs la seule épouse, ou la seule femme, si vous voulez, qui a été heureuse à l'Élysée. Car ce qui est caractéristique, c'est que toutes les conjointes des présidents de la République, puisqu'on a eu jusqu'à présent que des hommes, eh bien, toutes les conjointes, y compris Madame de Gaulle, y compris Madame Giscard d'Estaing, ont détesté l'Élysée. Et donc, il est vrai d'ailleurs que la conjointe du chef de l'État n'avait aucun statut officiel, n'existait pas sur le plan institutionnel. Il a fallu attendre Emmanuel Macron pour qu'au moins on sache qu'il existe une compagne, enfin une femme au président de la République et qu'elle a donc à ce titre le droit de faire un certain nombre de choses, ce que faisaient d'ailleurs les prédécesseurs, mais elle le faisait, je dirais, de manière coutumière. Là, ça se fait de manière plus officielle, c'est beaucoup moins hypocrite, mais c'est vrai que la place, le rôle de l'épouse du président de la République reste difficile à traiter parce que les Français élisent un homme, un président, peut-être demain une femme, mais non pas son conjoint.
Alors, on apprend plein de choses dans votre livre Fred Pallet, René Dosière. C'est une vraie Bible. Moi, j'ai appris, par exemple, qu'on pouvait écrire au président sans mettre de timbre, hein, comme quand on écrit au Père Noël. Oui. On apprend qu'il y a 70 personnes qui trient le courrier. Vous passez tout en revue, l'Élysée, ses annexes, la lanterne, Brégançon, où Emmanuel Macron a fait installer une piscine hors sol, la cave de l'Élysée, l'avion présidentiel. Vous suggérez quoi ? Vous suggérez surtout que l'Élysée liste tout sur le site de la présidence pour plus de transparence encore ?
Non, je pense qu'il serait souhaitable, c'est qu'on dispose d'un texte législatif, si vous voulez, officiel, qui dise exactement quels sont les les droits, les obligations, je dirais, du président de la République que l'on détermine. Il y a un règlement, par exemple, il y a un règlement budgétaire maintenant à l'Élysée depuis François Hollande, mais c'est une simple décision du président. Il n'y a pas eu un texte officiel pour le rendre en quelque sorte public. De même, Emmanuel Macron vient de créer pour la première fois un organigramme à l'Élysée. Il a réorganisé l'administration. Là aussi, c'est une décision de lui-même. On ne sait pas si un successeur pourrait éventuellement modifier cette organisation. Donc je pense qu'il serait bon que l'on ait un texte, je dirais, législatif qui officialise ce qui se passe à l'Élysée.
Voilà, vous avez encore plein de suggestions à faire. Aujourd'hui, René Dosière, vous n'êtes plus député. Vous présidez toutefois l'Observatoire de l'éthique publique. C'est un groupe de réflexion que vous avez créé, que vous avez lancé en mai 2018. Il y a des parlementaires de tous bords, il y a des universitaires. Vous visez quoi avec cet observatoire? C'est quoi l'objectif?
Alors, l'objectif, c'est de renforcer, je dirais, la transparence sur les divers aspects de la vie publique, qu'il s'agisse d'ailleurs des collectivités, du Parlement, de la justice, des hauts fonctionnaires. Et là, si vous voulez, il s'agit en quelque sorte d'explorer quelles sont les zones grises, les secteurs où on a encore besoin de progresser. Et là, ce sont les universitaires qui sont issus d'une quinzaine d'universités françaises, les parlementaires qui sont issus des différents partis politiques, qui ensemble ont décidé d'unir leurs efforts pour améliorer cette transparence. On parle, si vous voulez, de transparence constructive en quelque sorte, car ce que nous souhaitons, c'est justement faire des propositions pour améliorer le fonctionnement des institutions. Par exemple, pour le gouvernement, l'Observatoire a proposé qu'il y ait un déontologue qui permettrait justement d'éviter ou de régler les affaires comme celles qui sont posées à François de Rugy ou à Jean-Paul Delevoye.
Voilà, alors on va voir dans quelques minutes, René Dosière, d'où vous est venue cette passion pour les questions financières, pour les budgets en tout genre. On va voir quel est votre parcours. Le temps d'écouter un de vos chanteurs fétiches, Bobby Lapointe.
Nous étions trois, je commence par moi. Moi que l'on traite de poète, car je fais des vers un hiverné très raffiné, surnommé Oxébète. L'esthète de Nevers, j'ai tout dit sauf le philosophe. Je vous présente trois dilettantes et je vous dis nous, moi, le philosophe. Et l'esthète est mon qu'une présentation. 60 façons, c'était l'été. Et tel était notre soif que tout ce qui est à que même un piano aurait été par nous tété avec félicité. Si licite c'eût été même illégal, quelle ville régale nous eussions fait d'un jus de fluxion frais. Et je vous dis nous, moi, le philosophe. Et l'esthète mon qu'une soif à ce point. Ça ne se passe point, mais blati pas, là a du pas. Je vois des murmures sur un mur et je murmure ami osé, en poussant par en tous mes souliers souillés quand je suis sulfette, une Suisse helvète me dit sache que cette chose ça s'achète. Mais je lui dis nous, moi, le philosophe, et l'esthète est mon qu'une phase de fesse se passe de pèse, elle se fâche, et là c'est vache. Tout c'est en m'enlaçant salement, à sale moment elle me bascule et m'émascule. Qu'elle s'en compère, disent mes compères, l'ample de père elle les repousse pour lier ma bourse d'un fil à plomb. À quelle ville à plomb? Mais je lui dis nous, moi, le philosophe, et l'esthète mon qu'une fausse asepsis face à ses petits.
Moi, le philosophe et l'esthète, Bobby Lapointe, en 1969, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Un choix musical qui ne doit rien au hasard, en fait, puisqu'il paraît que vous chantez très bien, Bobby Lapointe, René Dosière. Je rappelle que c'est vous l'invité d'une semaine en France et que vous êtes dans votre voiture, coincé dans les bouchons parisiens. Bobby Lapointe, vous chantez alors?
Oui, je chantais surtout à Vanille Framboise.
Voilà, mais c'en est une autre qui est très très bien aussi.
Oui, alors, tout à fait, mais tout Bobby Lapointe.
Tout Bobby Lapointe est bien.
Génial, on est d'accord. Une connaissance de la langue française extraordinaire.
Un petit mot de votre parcours, René Dosière. Vous l'avez raconté en partie dans un précédent livre intitulé « Argent, morale et politique » publié au Seuil. Vous êtes né, on peut le dire, il y a 78 ans, c'est ça ?
Oui, exactement.
À Aurigny-Sainte-Benoite, petite commune de l'Aisne, près de Saint-Quentin, où votre grand-mère tenait un café. Votre père était instituteur, même il a même été directeur de l'école de la commune. Assez vite, vous êtes parti à Saint-Quentin comme pensionnaire, c'est ça ?
Eh oui, parce que c'était l'époque où l'instruction, notamment dans les lycées, si vous voulez, était un peu réservée, je dirais, à une élite. En l'occurrence, dans ce village, il y avait trois enfants qui allaient au lycée, le fils de l'instituteur, le fils du percepteur et puis le fils de l'ingénieur, voilà.
C'était l'époque où l'ascension sociale était un peu particulière. Oui. Quelque chose d'important dans votre parcours, René Dosière, c'est votre engagement à la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Ça a été une école d'engagement, de militantisme pour vous ?
Oui, tout à fait, parce que c'était un mouvement, je parle au passé, parce que maintenant, ce qui existe aujourd'hui n'a plus beaucoup de rapport avec l'importance de ces mouvements d'éducation populaire, évidemment d'origine chrétienne, mais c'était de vrais mouvements d'éducation populaire, et au fond, on se formait directement, on dirigeait des camps, on avait des responsabilités, on réfléchissait sur l'évolution de l'enseignement pour ce qui concernait la jeunesse étudiante, on se préoccupait quand on était un peu plus âgé des problèmes de la guerre d'Algérie d'ailleurs, et donc c'est une véritable école de formation. Vous savez, quand on m'a demandé à 17 ans d'animer une séance de ciné-club devant près de 400 jeunes, évidemment, ça vous apprend, si vous voulez, à parler et puis à analyser un film. Donc c'est une école de formation qui reste présente toute votre vie.
Vous avez fait, René Dosière, des études d'histoire géo à la Sorbonne, puis ensuite vous êtes reparti chez vous dans l'Aisne pour travailler au service départemental d'aménagement de la Chambre d'agriculture. Si j'ai bien lu. Et il paraît que c'est à cette époque que vous avez commencé à lire les rapports de la Cour des comptes. Et là, ça, c'est le début d'une passion qui ne s'est jamais éteinte, quoi.
Oui, parce que c'est en travaillant à la Chambre d'agriculture et en travaillant notamment sur le milieu rural du département de l'Aisne que je me suis en quelque sorte initié aux budgets communaux. Durant mes études, je n'en avais pas entendu parler du tout. Et là, donc, j'ai découvert les budgets communaux et puis notamment les rapports de la Cour des comptes qui étaient exigeants quant en ce qui concerne l'usage de l'argent public, dont il faut toujours rappeler, ne jamais oublier que l'argent public, c'est-à-dire c'est l'argent de tous les Français, puisqu'il est fourni par les impôts de tous les Français.
Alors c'est par les finances locales que vous êtes arrivé à la politique, par le terrain local, vous avez été élu à Laon, vous avez été maire de la ville, conseiller général de l'Aisne, conseiller régional de Picardie, président de région. Finalement, vous êtes entré à l'Assemblée nationale assez tard, c'était quoi, en 86, vous aviez déjà 47 ans, c'est ça ?
Oui, c'est en 89, en 88 que je rentre à l'Assemblée.
88, pardon ?
Oui, c'est ça, donc à 47 ans, oui. Mais si vous voulez, quand j'étais plus jeune, je n'imaginais pas faire, je dirais, une carrière parlementaire. Ce qui m'intéressait dans la politique, c'était le concret, les choses de la vie quotidienne, et finalement, c'était la politique locale, parce que là, vous êtes en contact avec les gens. Bon, ma carrière a fait que ensuite, je me suis retrouvé député, mais comme député, naturellement, le travail que l'on peut faire est plus abstrait, mais néanmoins, on doit rester en contact avec les habitants, et puis on traite de sujets qui sont des sujets importants. J'ai traité notamment le budget de l'Élysée, c'est-à-dire que, et puis la gestion de l'argent public, de même ce qui se passe dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie. Bref, ce que l'on fait, c'est quand même des choses qui concernent directement la vie des Français.
Voilà, et vous avez été élu sous l'étiquette socialiste. Alors, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, puisque par deux fois, ils vous ont refusé justement l'investiture, alors que vous étiez étiez député sortant. Juste un mot, René Dosière, parce qu'on va passer aux bonnes ondes, comme tous les vendredis, de ce que vous avez fait pendant des années et des années pour permettre aux habitants de votre département d'aller découvrir l'Assemblée. C'était quoi? Chaque samedi matin, il y avait un car, vous étiez à l'intérieur avec une cinquantaine de personnes, vous partiez visiter Paris, c'est ça?
Oui, mais c'était pas chaque samedi, c'était deux ou trois samedis. Je dirais, c'est un samedi par mois, en fait.
C'est déjà pas mal.
J'accompagnais effectivement une cinquantaine de personnes de la circonscription à l'Assemblée. Donc, pendant le voyage, les deux heures de voyage, je leur expliquais un peu ce qu'était le rôle d'un parlementaire. Nous visitions l'Assemblée et puis ensuite, nous allions faire une promenade en bateau-mouche sur la Seine et puis au retour, on commentait et également la journée. Je crois que c'était une manière à la fois une sorte de journée d'instruction civique et puis en même temps de contact avec les habitants.
Voilà, c'est sympa, l'instruction civique de manière tout à fait concrète. On va passer, René Dosière, à notre rubrique Les Bonnes Ondes avec Sandrine Houdin comme tous les vendredis, puis je vous reprendrai ensuite. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, un coup de projecteur sur une thérapie qui a été présentée cette semaine lors des assises sur les violences sexuelles qui se sont tenues à l'UNESCO à Paris. C'est l'association SVF Stop aux violences sexuelles, l'organisatrice de ces assises, qui l'a présentée, cette thérapie. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, cette thérapie, c'est l'escrime.
Oui, pour l'association, le traumatisme physique est aussi important, voire plus urgent à traiter que le psychique. Parce que qui a pris en premier? Eh bien, c'est le corps. Il a souvent pris cher. Ça laisse des traces. La preuve, beaucoup de victimes développent assez rapidement des pathologies situées comme par hasard en dessous de la ceinture.
Alors, pourquoi l'escrime?
Alors d'abord, c'est un sport de combat. Et qui dit sport de combat dit décharge. Contrairement au judo, pas de corps à corps. Inimaginable pour les victimes d'abus sexuels. L'escrime, c'est apprendre à gérer l'attaque, la défense, l'esquive. C'est l'art de la bonne distance. Et puis surtout, on porte une panoplie qui couvre le corps et le visage, et ça, vous allez voir, ça facilite les transferts.
Alors, pour mieux comprendre, Sandrine, deux anciennes participantes témoignent de ce que le maniement du sabre leur a apporté. Marie a 54 ans, Nathalie, 51.
C'est ici, dans cette salle d'armes, sous la tour Montparnasse, qu'elles ont passé un an à tenter, non pas d'oublier, c'est impossible, mais au moins de se réparer.
J'ai été violée à 17 ans dans une maison de vacances par un oncle par alliance. Et il y a eu pénétration par mon père à 6 ans dans une baignoire.
Ah oui, en fait, ça a commencé par votre papa. Et vous?
Moi, j'avais 6-7 ans et c'était le fils d'amis de mes parents et on jouait à cache-cache. Et en fait, il me mettait dans la chambre et en fait, il me déshabillait, etc.
Il avait quel âge?
9 ans de plus que moi.
On ne voit pas à la radio, mais vous avez fait signe stop.
Ouais.
Quand on a vécu un tel traumatisme, on souffre de quoi?
Beaucoup de problèmes gastro-intestinaux, de maux de ventre épouvantables, beaucoup de problèmes d'insomnie, des angoisses.
C'est fou, vous avez commencé par le physique. C'est quoi, on somatise?
Voilà.
Par exemple, moi, juste avant de commencer ces ateliers, en fait, je pouvais tomber comme ça dans la rue. Et j'étais pas dans les pommes, j'étais juste enfermée dans mon corps.
L'escrime, au départ, quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit non, c'est pas possible.
C'est-à-dire?
Parce que pour moi, c'est un sport de combat. Rien que le fait de venir ici, ça réveillait des douleurs.
Quant à Nathalie, elle avait beaucoup de mal au départ avec le sabre.
Je n'arrivais pas à oser repousser l'autre. Si je viens et que je vous touche comme ça, vous n'allez pas apprécier. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me repousser. Mais ça, c'est parce que vous savez où sont vos limites. Mais quand on a été agressé, on ne sait pas où sont nos limites. Même les mots qui vont avec l'escrime, c'est toucher, effleurer. C'est compliqué d'aller sur le rapport au corps. Et en fait, tout le travail pendant ces 10 séances a été de pouvoir se défendre, pouvoir se protéger.
Par exemple?
Si je vais avancer d'un pas, par exemple.
Comme ça, là?
Ouais, comme ça. Que je puisse repousser l'autre ou les autres agresseurs supposés.
Parce qu'il y a le masque et c'est l'avantage de l'escrime, Philippe, leur maître d'armes.
Le judo, le karaté, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Le masque, ça va être un facilitateur. Parce que le fait d'avoir le masque sur la tête, on peut imaginer n'importe qui derrière. Si c'est dans le cadre d'un inceste, on peut identifier la personne de la famille. En face, c'est lui, quoi. Et l'idée, c'est de tuer l'agresseur.
Et ça, c'est bon en quoi ?
On peut expurger un peu cette énergie meurtrière face à son agresseur, cette colère et cette haine qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne.
Et ça, Marie confirme.
On revit des choses. Parce que quand on reste assis sur une chaise avec un thérapeute, par exemple, on n'est pas en situation, on reste dans son mental. Avec l'escrime, on vous dit « Allez, à toi, allez, vas-y, tout va très très vite ». Du coup, ça ne peut pas passer par le mental.
Olivier, le deuxième maître d'armes.
On essaye qu'elles ne réfléchissent plus, c'est-à-dire qu'elles sont mises dans un système de protection cérébrale. Il faut qu'on arrive à les fatiguer physiquement pour que le cerveau lâche et que le corps s'exprime par lui-même. C'est le corps qui doit libérer cette énergie meurtrière. Tout ce qu'on a enfoui au plus profond de soi, eh ben, ça remonte. Tous les souvenirs, toutes les sensations, toutes les odeurs. En gros, on joue sur les sensations et les émotions.
Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le travail de groupe.
Combat commun vers la réparation.
Bah ouais. Dans mon groupe, on s'appelait les sœurs d'armes. Ah ouais, il y avait besoin de combattre.
Allonge bien le bras. Très bien.
Vous, en tant que maître d'armes, quand vous les voyez toutes ces femmes, quel est l'avant et l'après ?
Bah c'est une posture, une ouverture d'épaule et un visage qui sourit.
Et c'est flagrant entre le premier atelier et la fin du dixième ?
Tout à fait, ouais. Entre le premier et le dixième, on a une évolution assez impressionnante.
La preuve ?
Une grande baisse des somatisations.
C'est-à-dire quasiment plus de douleur ?
Ouais, le ventre quasiment plus, tout ce qui était autour du sommeil, ça s'est amélioré. Puis la relation aux autres aussi, plus simple.
Quant à Nathalie, son agression ne tourne plus à l'obsession.
Avant, j'y pensais tout le temps, ça a été terminé.
Terminé.
J'ai encore de l'émotion, peut-être des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la moyenne des gens, mais penser à ça, ça s'est arrêté. C'est juste énorme. Moi, je suis passée de psy en psy pendant 15-20 ans, de psy en psy.
Il vous fallait l'escrime.
Il me fallait l'escrime, exactement, ouais. Ça m'a sauvé la vie, vraiment. Je le souhaite à toutes les personnes qui vivent ce trauma.
Un grand merci Sandrine Houdin, à signaler, c'est important. Tous ces ateliers sont doublés d'un suivi thérapeutique individuel. Il en existe à Paris et dans une dizaine de villes. Pour les femmes, les hommes et même les enfants, toutes les infos sur le site de l'association stopauxviolencessexuelles.com. La vie n'est pas toujours facile, René Dosière. Heureusement, j'ai vu que vous avez une passion pour la poésie, vous, pour
oui.
Charles Péguy, c'est ça ?
Oui, pour Charles Péguy, oui, tout à fait. Oui.
Depuis toujours ?
Depuis toujours. Ben alors, selon les époques, effectivement, c'était ses œuvres en prose, et c'est un peu plus tard que j'ai découvert notamment sa poésie, et en particulier d'ailleurs la Ballade du cœur qui a tant battu, qui est restée inédite jusqu'en 1941.
Eh ben, on ira lire tout ça. Un grand merci René Dosière pour cette émission Une semaine en France qu'on a fait au téléphone. Ben, c'est une première. Voilà, vous étiez bloqué dans les bouchons, on n'avait plus qu'à reprendre le volant, et puis je sais pas, vous allez repartir dans l'Aisne peut-être. Un grand merci. Votre dernier livre, c'est Fred Palais, La vérité sur les dépenses de l'Élysée, c'est aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, le journal de 19h et ensuite le téléphone sonne qui sera consacré au début des épreuves du bac 2021 pour les élèves de première qui étreignent la nouvelle formule. Eh bien, les premières épreuves communes du contrôle continu vont bientôt commencer. Si vous avez des questions à ce sujet, appelez-nous au 01 45 24 7000.